Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Nous allons avoir une série d'enseignements centrés sur l'homme. Sur l'homme, son comportement, sa mentalité, sa façon de penser, d'agir et de réagir. Ça va être intense. Ça va être dense. Et certains cerveaux vont chauffer. Juste pour vous donner un aperçu. Ce n'est pas nécessairement dans cet ordre que les choses vont se passer, mais je vous donne cet aperçu. Aujourd'hui, nous allons faire les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. C'est un enseignement. On fera un autre enseignement sur la séparation spirituelle des croyants. On fera un autre enseignement sur la nature humaine. On fera un autre enseignement sur la souffrance du juste, sur les signes des croyants. Un autre enseignement sur la régénération. Un autre enseignement sur la régénération des disciples. Un autre enseignement sur les trois sortes de gens sur terre. On parlera de la formation biblique des chrétiens. On parlera de l'apostasie personnelle. On parlera des normes de moralité sexuelle. On parlera des chrétiens dans leur relation avec le monde. Donc, quand je regarde ne serait-ce que ces 12 thèmes qui viennent d'être 13 au total d'ailleurs, pour ceux qui vont être annoncés, même si j'en ai noté 21 au total, les 13 premiers sont axés sur le chrétien, lui-même. On a beaucoup parlé de Dieu, c'est bien, c'est édifiant. Mais quand on vient de signer une alliance comme celle que nous avons signée, nous sommes tous d'accord de signer cette alliance avec le Père éternel, il faut qu'on lui prouve que nous sommes à la hauteur des engagements que nous avons pris devant lui. C'est pourquoi il faut travailler sur nous. Travailler sur nos faiblesses, nos insuffisances, notre paresse, notre ignorance, nos maladresses, nos errances, etc., etc. Donc, on va aller en profondeur dans des choses qui vont au minimum vous renier et au mieux vous retourner. Nous avons dit que l'enseignement d'aujourd'hui a pour thème les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. C'est un enseignement qui fait une lecture comparative, mais qui est très intéressant parce qu'il permet de savoir dans quel camp on est et dans quel camp il faut aller. Lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, la parole, on peut lire aisément dans la Bible que aucun passage de la Bible n'offre, n'est pas un contraste plus explicite que celui qu'établit Galates 1, le verset 16 à 26. Entre la vie des croyants remplis de l'esprit et celle des individus contrôlés par leur nature pécheresse. Est-ce que quelqu'un peut prendre le soin de nous lire Galates 5, le verset 16 à 26? Galates 5, le verset 16 à 26. Non seulement Paul examine les différences de mode de vie en général en insistant sur le fait que l'esprit et la chair sont ennemis l'un de l'autre, mais aussi il dresse la liste des œuvres de la chair, celle du fruit de l'esprit. Donc, c'est une lecture comparative qui est très intéressante. On va commencer par les œuvres de la chair, mais je tiens d'abord à qu'on lise Galates 5, le verset 16 à 26.
Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai dit, déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous proposant les uns les autres en nous portant en vie les uns aux autres. Amen.
Amen. C'est très intéressant d'avoir lu ce passage parce qu'il annonce, n'est-ce pas, les contenus de ce que nous allons analyser ensemble, étape après étape. Parlons d'abord des œuvres de la chair. Parce que quand on parle de la chair, en grec c'est carte, qui représente la nature humaine, c'est désir corrompu. Donc la chair fait toujours partie intégrante de la vie du croyant, même après que ce dernier se soit converti. J'ai envie de vous dire, quand vous voulez vivre selon l'esprit, ne faites pas comme si vous n'avez pas de chair. Ce serait un manque de réalisme. Tenez compte du fait que vous avez la chair. La chair a des exigences. Je n'ai pas dit qu'elle vous oblige à pécher. Elle a des exigences. Ça m'a dit que bon, le plus important c'est qu'elle soit propre spirituellement. C'est quand je fais une semaine sans me laver. Ça sent le bouc qui va poser un problème aux gens. Bon, de toute façon, comme je dis selon l'esprit, je n'ai plus besoin de manger. Non, c'est la grève de la faim que tu as fait, je n'ai pas le jeûne. Et puis, il y a une différence. Le jeûne a des objectifs bien spécifiques. Il y a des types de jeûne en fonction des objectifs à atteindre dans la relation à Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais la grève de la faim, je dis ça. Ou bien quand tu es marié, tu coupes les ravitaillements à ta femme. Et tu dis que, en tout cas, moi je vis selon l'esprit, hein. Non, il ne fait plus rien. Fais attention, la Bible doit s'attraper à l'endroit. Les privations, c'est pour un moment et en commun accord. Je parle à quelqu'un des oreilles. Donc, lorsque vous voulez vivre selon la chair, vous n'êtes pas avec Dieu. Mais lorsque vous voulez vivre à l'esprit, vous devez quand même vous rappeler que vous êtes dans le corps. Malgré toute la discipline spirituelle, si vous oubliez que vous êtes dans votre corps, vous allez quand même voir quelques difficultés managériales à gérer ce corps. Encore que je vous préviens, même quand on écarte le péché, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles, avec le corps, il faut négocier. Par exemple, vous pouvez faire quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jeûner, tu prends le jeûne. Vous le jeûne matin, pas je dis, je fais un jeûne texte de 7 jours. Celle-là fait un jeûne texte d'un jour, non. Celle-là fait un jeûne texte de 3 jours, non. Subitement, comme ça, brutalement, si c'est ce que le corps va t'expliquer que c'est lui qui est ici. Vous devez apprendre à comprendre que la chair a des exigences, mais ce n'est pas parce qu'elle a des exigences qu'elle va vous conduire à pécher ou bien vous conduire au péché. Tous les enseignements que vous recevez, c'est pour la pratique. C'est pourquoi on ne peut pas manquer de vous apporter quelques orientations et clarifications. Donc, la chair peut devenir un ennemi mortel pour l'esprit, et particulièrement pour le croyant, parce que véritablement, la chair fait le combat à l'esprit. Quand on parle de la chair, vous intégrez dedans le corps et l'âme. Nous avons expliqué la tripartition qui est entre esprit, âme et corps, mais quand on parle de la chair, intégrez le corps et l'âme. Parce que l'âme et le corps font la guerre à l'esprit. Vous pouvez lire les passages de Romains 8, le verset 6 à 8, et encore le verset 13, et ensuite Galates 5, le verset 17, ainsi que le verset 21. Donc, Romains 8, le verset 6 à 8, ainsi que le verset 13, Galates 5, le verset 17, ainsi que le verset 21.
Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen.
Vous avez lu le verset 13.
Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen.
Amen. Galates 5, le verset 17 ainsi que le verset 21.
Galates 5, verset 17 à 21. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont les publicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de tâche et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen.
Amen. Donc ceux qui accomplissent les œuvres de la chair ne peuvent hériter du royaume de Dieu. On l'a lu tout à l'heure. Ainsi, la chair doit être repoussée et mise à mort. Pour cela, les croyants doivent livrer une lutte incessante à l'aide de la puissance de l'Esprit. Vous pouvez lire, n'est-ce pas, Romains 8, verset 4 à 14, qui explique l'Esprit avec lequel on doit lutter contre les désirs de la chair. Romains 8, verset 4 à 14. Non, ce n'est pas pour lire maintenant, vous gardez dans vos références. Parlons maintenant des œuvres de la chair. Elles sont les suivantes. Elles ont été nommées tout à l'heure. On va aller en profondeur. Premièrement, l'impudicité. L'impudicité, en fait, en grec, c'est porneia. Porneia, qui veut dire, en fait, un comportement et des rapports sexuels immoraux. Ce qui comprend le fait d'éprouver du plaisir à regarder des images et des films ou des livres pornographiques. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. Et beaucoup de personnes, à cause du fait qu'elles n'ont pas la connaissance de la parole, croient que ça n'existe pas. Dans l'impudicité, comme élément de référence, vous pouvez trouver facilement, il n'y a pas besoin qu'on lise ça là maintenant, puisqu'on a parlé de ça déjà. Vous avez Exode 20, le verset 14. Exode 20, le verset 14. Matthieu 5, le verset 31 à 32. Exode 20, le verset 14. Matthieu 5, le verset 31 à 32. Matthieu 19, 19. Matthieu 19, 19. Acte 15, le verset 20 et 29. Acte 15, le verset 20 et 29. Et enfin, pour cette partie d'impudicité, 1 Corinthiens 5, le verset 1. Bon, le premier élément qui nous est décrit, c'est l'impudicité avec des références bibliques. Deuxième élément qui nous est donné, c'est l'impureté. Quand on parle d'impureté, en grec, c'est atatarsia. L'impureté, c'est-à-dire le péché sexuel, les œuvres mauvaises et les vices, y compris les pensées et les désirs du cœur. Est-ce qu'on peut lire Éphésiens 5, le verset 3? J'ai dit que l'impureté en grec, c'est atatarsia. C'est-à-dire le péché sexuel, les œuvres mauvaises et les vices, y compris les pensées et les désirs du cœur. Éphésiens 5, le verset 3. Est-ce qu'on peut lire Éphésiens 5, le verset 3?
Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée par les mots, ainsi qu'il convient à les saints.
Amen. Troisième élément ancré dans la chair, la dissolution. Alors là, dans une société comme la nôtre aussi, on va regarder la dissolution, quelque chose d'assez facile à trouver. En grec, c'est aselgeria. C'est quoi en fait la dissolution? C'est-à-dire la sensualité, suivre des passions et ses désirs. Suivre ses passions et ses désirs au point de ne plus les considérer comme des choses honteuses ou comme un outrage public à la pudeur. On voit cela de plein de façons. Beaucoup de comportements des hommes ou des comportements des femmes sont tellement graves ici dehors que, et tellement banalisés que ça ne pose plus de problème à personne. Je commence par quelque chose dont je n'ai jamais parlé ici, qui est très facile. Lorsqu'on est en train de vivre comme Douala ou même dans les villes, entre Douala et Yaoundé, on voit la corruption des agents de la police ou de la gendarmerie qui ne pose plus de problème. Ça pose du problème à personne. C'est devenu normal. de voir qu'un agent de la police, de la gendarmerie, reçoit une petite feuille. 500, 1000 francs ou 5000 selon la situation. Donc, c'est la cotisation en route. C'est de la même manière que quand on est arrivé dans une logique ou dans un pays, on doit se charger sans trop de problème. Sur la moto, ils sont 4. Dans la voiture, devant, ils sont 3. Quand tu demandes même à quelqu'un que, mais, non, mais la voiture, c'est combien de places? C'est 5 places, non? Et tu dis que, mais si tu veux respecter ça, achète ta propre voiture. Ou bien comme quelqu'un m'a répondu un jour, je dis qu'un monsieur, je ne veux pas être surchargé, comme vous appelez ça, bâché. S'il vous plaît, ce n'est pas le chauffeur qui m'a répondu, ce sont les passagers derrière. Tout le monde dit que, mais, et deux places, donc. Donc, lorsque une incorrection devient normale, si votre voiture fait l'accident, vous n'êtes pas assuré à cause de la surcharge. C'est le plus petit incident, vous n'êtes pas assuré. On s'est habitué à des choses anormales. On s'est habitué aux femmes qui portent les vêtements sans doublure. Et il faut maintenant, comme elle a mis les vêtements sans doublure, qu'elle mette le cycliste en bas. Et la doublure est allée au milieu des têtes. C'est la norme vestimentaire. On s'est habitué à mettre les ministres. Quand on n'arrive pas à mettre un long qui n'a pas de doublure. Parce que l'homme est transparent. Quel paradoxe. Qu'est-ce qu'on cache véritablement? On s'est habitué à la tricherie. En milieu académique et scolaire. On respire la tricherie, mais il n'y a pas de problème. On trouve normal de tricher. De ne pas être méritant. On s'est habitué à attaquer tout ce qui brille. Dans une société, quand tu brilles, on est d'accord sur le fait qu'il faut te défendre. Tu veux me montrer que quoi? Au point où, chez nous, les gens souffrent de ce qu'on appelle la psychologie, le syndrome de Stockholm. C'est quoi le syndrome de Stockholm? C'est un syndrome qui a été observé en Stockholm. C'est une ville en Suède. Où on s'était rendu compte, à l'époque où on observait le phénomène, que les gens qui avaient été mis en captivité avaient développé de la sympathie pour leur bourreau. Quand les gens arrivent à un certain niveau, n'est-ce pas, de dissolution, il y a une inversion des normes qui se passe dans leur tête. C'est comme par exemple une société comme la nôtre, où il est normal pour une fille de se prostituer. Tout à fait normal. Parce que vous voyez la position dans la phase terminale, alors qu'elle est active dans la phase initiale. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont des prostituées. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui était traumatisé parce qu'il était assis dans un salon de coiffure et une fille était en train d'expliquer à l'autre copine comment jongler deux hommes entre celui qui vient de l'étranger et celui qui est dans la ville, comment il fallait changer de poste et de téléphone pour gérer les crises, pour qu'un croit qu'elle a voyagé et que l'autre sache qu'elle est disponible pour le management de la complexité dans cette affaire. Donc, elle se sent dans une telle légitimité qu'elle peut en parler dans l'espace public. Il y a plus de 10 personnes qui écoutent. Mais quoi? J'ai donc avec deux gars au minimum. Il n'y a pas de problème. Je suis au paradis. Et il y a des choses quand même qu'il faut se poser. Il y a des questions qu'il faut se poser. Quand on accepte la tricherie, on arrive à un certain niveau de dissolution. Pour la tricherie est une norme. Au point où on se moque de l'excellence, du mérite de toutes ses formes. Vous pensez qu'on va où? Quand la prostitution devient une norme, puisqu'on connaît aujourd'hui dans la société camerounaise, je ne veux pas aller en Côte d'Ivoire, ce serait une catastrophe, restons au Cameroun. Beaucoup de femmes poussent leur qui est à la prostitution et sont complices de ce désordre. Ton enfant, tu l'envoies dehors. Ce qui devrait être fermé, tu l'encourages à ouvrir. Et c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle la dissolution. Arriver à ce niveau de déstructuration, de désubstantialisation qui fait que les choses honteuses n'ont plus un problème, ne posent plus de problème. ce n'est plus le sujet d'un outrage public. D'ailleurs, moi j'ai vu des villes où quand tu arrives en boîte, tu trouves la main en boîte, ta main en boîte, ta fille en boîte, et le bébé de deux mois aussi en main. Mais il y a compétition en boîte. Et il n'y a personne pour garder le bébé. Donc autant mieux alors, de tout ça va. Il y a quoi? On se cherche, non? Donc, la mère en boîte, ta fille en boîte, et le bébé est en boîte. Vous savez, lorsque vous avez un certain niveau de bon sens, un minimum de bon sens, vous commencez à vous poser des questions. Et heureusement, quand on est bien assis et qu'on a la grâce d'être en contact avec la parole, on sait qu'on n'est pas anormal, que c'est les autres qui sont malades. Parce que quand les personnes rencontrent ce genre de choses et elles se posent des questions, mais n'ont pas de soutien, elles peuvent basculer du mauvais côté. J'ai rencontré beaucoup d'enfants pendant mon évolution depuis au moins 20 ans qui se demandent si c'est eux qui ont des problèmes. Parce qu'ils sont normaux. Ils n'arrivent pas à comprendre des choses anormales. Ils ont été développés dans la dignité, éduqués dans la dignité, ils n'arrivent pas à comprendre la perte de dignité. Et ça les fait souffrir. Il y a des choses, mais automatiquement, même si tu n'as pas la parole dans ta tête, tu sens que là, ça n'a pas de sens. Ça, c'est même quoi? Comme les autres formes de désordre que vous avez vu dans les télé-nouvelles, c'est tout ce qui était avant les télé-nouvelles. Je me rappelle d'une série fort satanique qu'on appelait de Terre et et quelques autres séries qui ressemblaient. Où l'essentiel se situait dans le fait que quand on a commencé une relation, elle finit vite après, on soit encore la voisine, ou bien on soit la soeur, ou on soit la copine. Dans votre culture, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais c'est quoi qu'on brandit comme modèle? C'est quoi? Ce n'est plus honteux. Peut-être que je n'ai pas grandi au milieu des garçons, ni au milieu des filles, peut-être. Mais je ne me rappelle pas qu'on ait pu accepter dans une logique même ordinaire de tout quartier, si tu sors avec un gars après, ta copine sort avec un gars, ou bien ta soeur sort avec un gars, il y a un problème. C'est-à-dire que dans la fornication, prend déjà la puissance et elle se développe dans d'autres dimensions de légitimité et même de légitimation. Il y a quoi? On se débrouille. La laideur, quand elle n'est plus laide, il faut se demander si on est en bonne santé mentale et spirituelle. Parce que quand quelque chose est horrible et laid, on doit quand même tout voir que c'est laid. Quand vous voyez souvent, je parle, certains me comprennent parce que c'est une accumulation. Tu peux avoir l'esprit le plus sain possible, et puis dans le doigt là, parce qu'un doigt là, le fils t'a vu mal, mais c'est quelque chose d'effrayant. Très mal. C'est que tu as tes yeux gentils là, d'un bébé, que l'esprit ça ne fait que nourrir. Après tu regardes l'horreur juste devant toi, tu n'as même pas caché. Vous dites que là, il n'a pas le volant. Vous dites que regardez. Regarde. Ça c'est quoi même? Comme j'ai cherché autre chose, oh quelle horreur, je cherche une rose. Hein? C'est une fleur, quelque chose qui va me consoler. Quand c'est dans une société, les choses honteuses n'ont plus de difficulté à s'exposer fièrement. On est dans la dissolution. Vous noterez, n'est-ce pas, 2 Corinthiens 12, verset 21. Quatrième élément, l'œuvre de la chair, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire adorer des esprits, des individus ou des images taillées. Adorer des esprits, des individus ou des images taillées. C'est se confier à n'importe qui. Parce qu'il n'y a pas que le fait d'adorer les individus ou les images taillées. C'est se confier à n'importe qui, à n'importe quoi. Et considérer ces choses comme, et toutes ces personnes, comme ayant une autorité égale, sinon supérieure à Dieu. Et à sa parole. Regardez cette société occidentale, si ce n'est occidentalisée dans laquelle on vous a appris à tout adorer. J'adore ce vêtement, j'adore ce portable que je viens d'acheter. Vous êtes en pleine idolâtrie. J'adore quoi ce portable? J'adore ton nouveau vêtement. J'adore ces lunettes. J'adore ces chaussures. Tes chaussures là, c'est Dieu. Tes lunettes là, c'est Dieu. J'adore cette nouvelle maison. J'adore cette voiture. Mais c'est de la folie.
Parce que là, non seulement c'est de l'idolâtrie, mais c'est de la folie. C'est un tel niveau de déconnexion à la réalité qu'on doit qualifier ça de folie. Mais regardez, ils vous ont fait un tas d'émissions. Journal télévisé, j'adore. Ce sont des phrases qui sortent en permanence. Émission spécialisée sur la cuisine, j'adore. Quand c'est la musique, j'adore. Quand c'est une chorégraphie, j'adore. On adore les chorégraphies. Donc, ils évitent de vous amener à adorer Dieu, vous adorez tout. Tout ce que vous adorez qui n'est pas Dieu, vous êtes en pleine idolâtrie. Ne voyez pas la chose de façon limitée. En disant que c'est juste le fait de mettre la photo de la croix ou bien les statues devant lesquelles vous avez commencé à dire que Marie est devant, je ne sais pas. Ce n'est pas un problème. Comprenez l'idolâtrie dans sa complexité et dans sa profondeur. Ne la voyez pas de façon limitée dans la perception religieuse. À partir du moment où vous adorez autre personne que Dieu, vous êtes dans l'idolâtrie. C'est tout. Donc c'est un malade mental qui se dit, j'adore la cigarette, j'adore l'alcool, j'adore le sexe. Très fort. C'est en pleine idolâtrie. Donc il est important de comprendre ces choses. Pour que les uns et les autres soient à l'aise, lisez Colossiens 3, le verset 5. Colossiens 3, le verset 5. Un lecteur, s'il vous plaît.
Colossiens 3, verset 5.
Oui.
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'infidélité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen.
Amen.
Autre fruit de la chair, désir de la chair, qui est terrible, c'est la magie. La magie en grec s'appelle pharmakia, pharmakeia, ou litou. C'est-à-dire de la sorcellerie, le spiritisme, la magie noire, l'adoration des démons, l'utilisation des drogues hallucinatoires, censées produire des expériences prétendument spirituelles. On a vu ça dans plusieurs pays, où on drogue les gens, et ils commencent à avoir des hallucinations, on dit, ça, les grands documentaires de Chine. Sur le vaudou et tout ça. Les gens prennent des drogues qui font qu'ils ont des hallucinations et qui sont des grandes expériences spirituelles. Quand tu es quelqu'un qui a été bien formé par le Christ, par l'Esprit Saint, tu regardes les gens documentaires là, tu as. Mais que la seule chose que tu peux dire pour eux, c'est que Dieu vous pardonne. Tu traverses, tu fais que Dieu n'est pas dans ce corps. Et c'est des cultes, hein. Très considérés. Très convoité, très respecté, où on drogue des gens pour qu'ils aient des hallucinations. Et on dit que non, ils ont des contacts avec l'esprit, avec le monde spirituel. Au mieux, je suis d'accord, ils ont des contacts avec le monde ésotérique, c'est-à-dire l'environnement du diable. La magie, il y en a qui la pratiquent de plein de façons. Entre vos voisins et mes voisins, de toute façon, il y en a beaucoup. Il se dit que nous sommes déjà équipés pour les brûler, donc il n'y a pas de problème. Par rapport à cela, vous allez lire Exode 7, le verset 11, le verset 22, toujours d'Exode 7. Exode 7, 11 et 22. Apocalypse 9, verset 21. Apocalypse 18, verset 23. Exode 7, le verset 11 et 22, Apocalypse 9, verset 1, Apocalypse 18, 23. Autre élément, les inimitiés. Les inimitiés, alors là, il aurait mieux valu pour nous d'avoir plus de chrétiens ici, c'est-à-dire plus de femmes pendant qu'on y est, parce que prioritairement en matière d'inimitiés, elles ont développé une expertise dans laquelle les hommes ont du mal à les rattraper. Une telle propension à être rancunière, à garder dans, à tout gâter, à gâter vite. Et lui parler plus. Regarde là. À ne voir que le lait que tu as avec quelqu'un. Au point d'être carrément capable de manque de bon sens. J'ai vu une vidéo qui est très édifiante sur la chanson Le gars là, elle est. Sauf que la personne qui dit ça vraiment n'est pas jolie. Donc, je passais par là. Les inimitiés sont produites par la parole. Il ne vous sert à rien de développer les inimitiés. Vous ne pouvez pas être de Christ et développer les inimitiés. Au contraire, vous devriez développer la paix. Et donc, vous êtes toujours cherché la petite bête chez l'autre. Regarde comment il est. Oui, fini alors ta phrase. Parce qu'il faut toujours chercher ce qui ne va pas chez l'autre. Il faut toujours aller dire, même ce qui est sain. Tu regardes Blaise. Blaise n'a pas les cheveux sur la tête qui a mis dans les coups. Tu as vu les cheveux. Les coups vivent là où il y a les cheveux. Donne les cheveux là-bas. Et c'est une intimité qui va de parent à enfant. Mais ça se transmet très vite, de mère à fille. C'est terrible cette histoire. Parce que les hommes, il y a un certain niveau de choses. Quand les hommes ont des problèmes, ça peut vite partir. Les femmes, quand elles ont des problèmes, bon, il faut un conciliabule de catégorie diplomatique. Et ce n'est pas seulement la diplomatie, il faut les psychologues très pointus pour gérer le genre là. Les femmes aiment développer en elles les inimitiés. Pour rien. Pour rien. Si tu veux détruire une femme, cherche une autre femme. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de chercher un homme. C'est une autre femme. Elles ont les logiciels initiaux pour attaquer les autres. C'est gratuit. Mais c'est biblique. Mais arrêtez, vous ne pouvez pas dire que nous, on vous a formé, vous êtes ici, on vous forme, vous continuez à être unifié. On passe là, ah, mais je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Quand vous avez dit, je reçois, allez, les unifiés. Premier coup de fil, là, vous avez traversé le sol. Marco, vous savez comment elle était hier? Qu'est-ce que tu vas chercher toujours de l'aide, de mauvais, de négatif chez les gens? C'est même quoi? De comparaison inutile. Pour rien. Et que ton esprit est toujours tordu comme ça, tordu, c'est que... C'est pas possible. Donc vous n'avez pas peut-être revu dans la Bible. Vraiment. Que toutes les femmes dans ce ministère soient équilibrées des inimitiés. Donc vraiment, les inimitiés, c'est-à-dire les actes ou les intentions hostiles et violentes, haine et aversion extrême. C'est qu'on n'a pas encore quitté le sujet. Prochain sujet, les querelles. En grec, ça s'appelle hérésie. C'est-à-dire, le sujet est tombé sur votre dossier. Qui a appris aux hommes à engueuler les gens? Qui a appris aux hommes à engueuler? Demandez aux gens qui ont l'âge de Blaise. Ou bien de Henri. À l'époque, là, nous, on disait que les hommes ne parlent pas. Il y a une époque, il y a ça, même pas, c'est quand nous avons 50 ans seulement. On disait que les hommes ne parlaient pas. Mais la crise économique, et c'est de cette raison en fait que les hommes ont commencé à rester à la maison avec leurs femmes. Et la contamination s'est faite depuis les maisons. Les hommes ont commencé à dire, quoi, c'est quoi? Tu es aussi devenu une poule, on croyait que tu étais un porc. Le foirage, toutes les mauvaises choses qui se sont passées, entre les envoûtements et les possessions, tout ça, les hommes ont aussi appris à engueuler. Il y a des hommes ici, donc quand il engueule, ça fait qu'il engueule jusqu'à ce qu'il n'ait plus le souffle. Tu regardes comme ça, tu demandes que, mais que s'est-il passé? Une chose que l'on connaissait à l'époque de nos grands-parents, et même de nos parents, que l'homme, si tu veux trouver les Anglais, tu ne trouveras jamais l'homme. C'est maintenant que tu trouves les hommes, et que... Non, ça reste que les affaires des hommes. C'est le coup de produire, on veut faire la bataille. C'est réduire ça. Moi, très bien, j'ai grandi à un mauvais d'habitude et à la tour à ce groupe. Voilà, Robert, mon petit frère, quand on joue au football, même s'il est dans le camp opposé, toi, mon coéquipier, tu le poses sur, croyez d'abord bien. Il n'y a pas de bavardage dedans. Non, régler les comptes avec les coups de poing. Si on parle avec un coup de poing, si le sac s'est fait arriver au sol, il voit le respect. Quand les fêtes sont arrivées au sol, ils savent que la bagarre ne peut même pas commencer parce que elle a clôturé à l'introduction.
Mais les gens vont se faire parler. Et quoi? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas?
Ils sont devenus intimes. Il manque qu'ils mettent les yeux. Donc vraiment, l'esprit des querelles, d'antagonisme, des disputes, je ne sais pas. Vous avez mis ça chez vous, parce qu'on n'a pas le temps. Romains 1, le verset 29 en parle, clairement. 1 Corinthiens 1, le verset 11 en parle, clairement. J'ai dit Romains 1, le verset 29. 1 Corinthiens 1. Le verset 11. 1 Corinthiens 3, le verset 3. Autre sujet qu'on retrouve dans la chair, les jalousies. En grec, c'est zélos. Zélos. C'est-à-dire éprouver du ressentiment. Envier le succès d'un autre. Je vais vous dire la vérité sur cette affaire de jalousie là. La jalousie est une preuve de faiblesse. Elle étale l'incapacité et l'incompétence d'un individu. Elle montre sa peur par rapport aux défis, aux challenges. Quand tu es jaloux de quelqu'un, pourquoi tu es jaloux de lui? Est-ce que Dieu t'a empêché d'avoir accès à ta part? Commençons par les choses élémentaires. Quelqu'un va à l'école. Tu es jaloux de l'autre parce qu'il est premier. Qui t'a empêché d'être premier? Qui t'a empêché d'apprendre tes leçons? Sur le plan, parce que les femmes ont ce problème-là. Elle est jalouse de l'autre fille parce qu'elle s'habille bien. Où est le rapport entre la façon dont la fille s'habille? Parce que les femmes, c'est que elles se disent, c'est un par comment tu t'appelles. Je vous ai arrêté. Tu passes seulement par là. Elle t'a vu. Elle a l'habitude de te voir. Là, elle te voit la première fois, elle plie un doigt. La deuxième fois, elle plie un doigt. Au fur et à mesure qu'elle te voit, elle se rend compte que tu es dans le secteur. Elle te déteste. Elle ne sait pas comment tu t'appelles. Donc, vous travaillez dans la même entreprise, vous êtes dans le même coin. Donc, vous êtes dans la même... C'est tout. Elle te déteste. Pourquoi elle s'habille bien? Peut-être que la femme que tu détestes est une femme, elle est bien définie. En dehors d'être bien définie, elle fait choisir les bons vêtements. À un endroit, elle achète ça moins cher et elle repasse bien. Elle lave ça bien. Ça fait que ça donne toujours l'impression qu'elle est riche. Toi, tu viens être jaloux du bien. Toi-même, tu dois mettre les habits en fonction de mettre dont ton corps est. Tu n'as pas fait les pieds n'importe comment, tu me dis n'importe comment les pieds là-dedans. Faut pas nous déranger. C'est comment? Tiens ton corps, arrange ton corps, valorise-le. Et tu es en train d'être jaloux d'une fille. Quand tu ne sais pas, peut-être que l'homme qui te fout ne peut même pas regarder le genre là. C'est comment avec toi? Et c'est comme ça qu'elle te croise de façon affreuse. Et les hommes ont du fait mauvais goût, c'est pas ça que je dis à un CD. Emmanuel, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends pas? Il y a 10 ans seulement, 20 ans, il y a des choses que les hommes n'accepteraient pas. On a regressé, on n'a pas passé une évolution. Parce qu'en temps normal, après tout ce que tu as dit, les jalousies, c'est le petit détail. Commençons par les éléments vestimentaires. La façon dont les gens s'habillent. Il y a des filles qui mettent souvent des perruques affreuses sur le temps comme ça. Et les autres sont quand même jalouses de ça. Il y en a d'autres qui ne savent pas que les soutiens d'ordre ne sont pas censés tirer et exploser. Combien de la bonne taille? C'est comment? Elles font les espoirs. Et d'autres qui ne sont pas bien sur les talons.
il y a des femmes qui ne doivent pas mettre les talons. Quand elles mettent les talons, tout se gâte. Il y en a qui ne savent pas qu'elles doivent mettre les pantalons, mais pas les pantalons serrés. Quand c'est déjà serré, ça pose un problème d'esthétique. Et quand ça commence à poser un problème d'esthétique, ça pose un problème d'éthique. Maintenant, il y a un problème de performance. Tu as un collègue qui travaille bien. Elle a reçu des félicitations, même ne serait-ce que verbales. Tu commences à être jaloux d'elle, que ce n'est que elle. Travaille aussi. Fais ta part. Il y en a qui commencent à être jaloux dans la maison, ça commence par là. Elle est jalouse de son frère, jalouse de sa soeur. Elle commence à détruire à l'intérieur déjà. Développe cette authenticité de jalousie. La jalousie est l'une des voies les plus rapides qui mènent à la sorcellerie. Amenez le micro là-bas. On est en train de donner l'enseignement. Il y a un doigt en l'air. Oui, donne le micro là-bas.
Mais je voudrais poser une question, papa, parce que tu as parlé des femmes qui... Bon, je n'ai pas la reçue. Mais il est écrit quelque part dans la... que les femmes ne devraient pas porter les vêtements des hommes. Le pantalon en fait une partie.
En réalité, le peu de temps où j'ai discuté avec le Seigneur là-dessus, j'ai été un peu surpris de voir qu'il était tolérant. Parce qu'effectivement, il y a un texte dans l'Ancien Testament qui est clair, qui parle du fait que les hommes ne doivent pas porter les pantalons, les femmes ne doivent pas porter les pantalons des... Ok. Le problème qui se pose aujourd'hui, à cause de ce que vous appelez l'évolution, c'est l'esprit de provocation qu'il y a derrière le portage de pantalons. Parce que de toute façon, le pantalon de la femme ne peut pas être défini comme le pantalon de l'homme, donc point de vue purement de la science, de la couture. De l'industrie, l'habillement, ce n'est pas les mêmes normes. Et quand les femmes mettent les pantalons pour chercher les problèmes ici dehors, c'est ça qui pose problème. Elle ne va mettre le pantalon, quand le pantalon cherche les problèmes, elle va mettre la bonne taille. Une femme peut mettre le pantalon et quand tu regardes la femme en pantalon, tu la respectes. Une autre peut mettre le pantalon, quand tu regardes, tu sens seulement qu'il faut enlever le pantalon là. Maintenant, ça dépend des raisons pour lesquelles il faut l'enlever. Donc, moi, j'élève seulement quelques paramètres. On peut porter le pantalon parce que c'est quoi? Derrière le vêtement, il y a un langage, il y a un vocabulaire. Le vêtement est un élément de communication. Une femme peut s'habiller pour dire, je suis une femme d'affaires. Une femme peut s'habiller pour dire, je suis un chef d'entreprise. Une femme peut s'habiller pour dire, je suis une dame respectable. Ou je suis une jeune fille respectable. Une autre peut s'habiller pour dire, je suis une prostituée. C'est simple, le langage, c'est clair. C'est pourquoi, quand les gens, je me rappelle, on avait interviewé sur Radio Balafon, lorsque le ministre, trois ministres dans un pays, se sont réunis pour interdire les ministres et tout ça. Quand on m'a interviewé, j'ai d'abord allumé les ministres en première intention. Vous venez parler des problèmes de vêtements, vous avez enseigné le langage du vêtement quand? Ces enfants ne savent pas, on connaît des filles qui n'ont aucune activité sexuelle d'un point de vue matériel, parce qu'on ne sait jamais. Elles peuvent être matériellement inactives et spirituellement actives. La visibilité n'est pas une garantie de sainteté, croyez-moi. Mais j'ai vu des vierges très sorcières. Donc vraiment, elles sont parfois plus dangereuses que les autres. Donc, il y a des enfants qui n'ont aucune activité sexuelle, mais qui ne savent pas qu'elles se sont habillées en prostituée. Tu vois des trucs, ça s'en met une de cette culotte brutale sur un corps qui est déjà gros. Ou d'autres, se met un truc qui a la lisière de l'impossible, et elle dit qu'elle est habillée. Mais ma fille, tu n'es pas habillée. Tu as mis juste un tissu sur toi, ponctuellement. Qui t'interdit de ramasser un kilo au sol ou de faire quoi que ce soit? Vous savez, les gens sont jaloux du travail des autres, des vêtements des autres. Parfois même ils sont jaloux de la coiffure des autres, des performances de l'autre. Il y en a qui sont jaloux des maris de l'autre.
Là, c'est la sorcellerie. Quand vous dites pas que ça aime, ça, c'est la sorcellerie. En pleine journée, ça, c'est la sorcellerie avancée. Quand tu commences à être jaloux du mari de quelqu'un, tu es déjà en train de devenir toi-même à l'armée. Toi-même. Et tu diras de rien, on va te donner la paix de manger là. Verser un peu de sable dessus. Ajouter avec un peu de charbon. On te dit que va donner là-bas, tu vas accepter. On va te dire que ça coûte 100 000, tu vas dire que c'est vrai, c'est 100 000. Je veux à tout prix que leur mariage se gâte. C'est ton mari que je veux. Il y a des choses quand même qui montrent que les gens sont malades. Vous avez déjà entendu ce genre d'histoire d'analyse comparative que, n'est-ce pas, une femme était toujours jalouse du mari de l'autre. L'homme contournait toujours pour ouvrir la porte à sa femme. Juste à ce qu'un jour, le jour où elle a dit que vraiment ton mari il est bien, le mien ne vient quand même ouvrir la porte, c'est moi-même qui ouvre. Le jour où elle allait dire à l'autre que mais, ton mari est bien, c'est bien ça. Il dit que, mais il vient toujours ouvrir la porte parce que la porte là est gâchée, on ne peut pas ouvrir de l'intérieur. C'est là où ma fille est galante. Les gens ont toujours cette tendance-là. Ils ont toujours comme le jardin de l'autre du voisin est plus vert que le mien.
Entretiens ton jardin. Dérange pas les gens. Ils sont en train d'envier les autres.
Il faut les voir souvent. Mais elles ont des copines dans la jalousie. Éloigne-le. Je le sais. Ça arrive. Si tu es bien habillé, tu es habillé toujours classe là. Même si tu es sexy, tu es toujours propre, classe et respectable. Parce qu'on peut être sexy sans être provocatrice. Est-ce que ça donne bien quand on regarde comme ça et dit que tout me mèche. Tu vois que oui, voilà une femme. Oui, elle est séduisante. Mais elle reste correcte. Et quand ton cœur bat que tu n'es pas le genre que n'importe qui peut aller saluer. Si tu as un visage, tu restes agitant et sécurité. Si tu as un dinarou, quand même tu sens que les gens là, il ne faut pas aller saluer, mais il n'y a pas plus le niveau de dinarou. Ça arrive comme ça bien habillé. Tes collègues se relient et elles te lorgnent. Hé, regarde encore ici. Hé, vraiment. Quand tu as le temps et l'énergie pour parler des autres, pose-toi la question de savoir si tu es en bonne santé. Quand vous investissez du temps, beaucoup de temps pour parler des autres en permanence, demandez-vous si vous êtes en bonne santé. On va parler des autres pour des raisons objectives, précises et ponctuelles. Ça ne doit pas être sujet de débat. Quand ça commence à être sujet de débat, c'est qu'il y a un problème. Et si vous parlez comme ça en permanence, sans jamais résoudre le problème, c'est que vous êtes déjà en train de tomber malade. Quand on se réunit pour parler de l'autre, il faut que le temps sorte une solution. Et une bonne solution, pas la solution des concubines. Pardon, des copines jalouses d'une autre. Tiens, regarde-la, regarde-la. Regarde-la, elles sont toujours en train, regarde-la. Regarde-la. Les hommes ont les autres niveaux de jalousie. On a déjà vu ça. Quand quelqu'un est jaloux de toi, mais il te fait tous les coups tordus. On te fait prendre ton matériel, on te fait déranger, ou parfois les mauvaises ou les mauvais rapports. Il y avait vu ça à l'université, on a vécu ça. Les gens écrivent des lettres anonymes contre toi. Ça arrive chez le chef, mais on n'a pas signé. Donc le chef voit les lettres te concernant, mais on n'a pas signé. Ou parfois, ordre du jour d'une réunion, c'est toi qui es le premier point de l'ordre du jour, le deuxième point de l'ordre du jour. L'ordre du jour à la réunion, il y a 5 points. Tu es à l'ordre du jour au premier point, le deuxième point de la réunion. J'ai déjà vu ça de pleine façon, et certains d'entre vous ont déjà vécu ces choses. Donc la jalousie, de toute façon, n'est pas bonne. On n'a rien à voir avec Dieu. Vous avez lu Romains 13, le verset 13 là-dessus. Continuons. Les animosités. Le 9e point, les animosités. En grec, on appelle ça thumos. Thumos. C'est-à-dire une colère explosive qui se manifeste à travers des paroles ou des actions violentes. Vous voulez encore que j'en ai un exemple. Les gens se reconnaissent, non? Il y a des femmes qui ont traumatisé leurs enfants, tel que tu tombes sur cet homme-là. 40 ans après qu'il ait quitté ses parents, ça n'a rien changé. Ta mère a tellement insulté qu'il est resté le traumatisme des insultes, de la colère explosive de sa mère. Et il est prêt à faire un transfert sans le vouloir. Certainement, nous avons un homme ne peut pas épouser une femme qui ressemble à sa mère.
d'un point de vue comportemental. Et il y a des femmes ici dehors qui sont traumatisées parce que leur mère les a insultées tellement.
Mais je vous ai déjà dit, il y a beaucoup de femmes ici dehors, quand tu lui fais un compliment, elle te trouve suspect.
Quand tu dis qu'en vrai, c'est joli, elle dit moi. Là, elle vérifie d'abord. Il n'y a pas de voisin.
On lui a dit qu'elle est laide, qu'elle est bien laide. Voilà, un équipement bien là, c'est nécessaire pour donner le bonheur, mais on lui a dit qu'elle est laide. Voilà.
Quand tu vois que c'est le paradis, ta mère lui a dit pendant 20 ans que c'est l'enfer. Ça va être très difficile de lui demander qu'elle est un bon modèle.
Cette animosité-là, et cette agressivité qui va avec cette animosité, détruit énormément. Quand Dieu interdit quelque chose, c'est facile de ne veut pas que tu restes dans un couloir d'autodestruction. C'est simple. Ce n'est pas bon pour ton épanouissement. Ni le couloir d'autodestruction, ni le couloir à destruction des autres. Dieu ne veut la destruction de personne. Nous avons Colossiens 3, le verset 8 qui en parle. Les disputes. Je ne vais pas revenir sur les disputes. C'est-à-dire là-dedans, là, les disputes, il y a la recherche du pouvoir. Une recherche illicite du pouvoir. Je vous donne un secret. Dans la marche avec Dieu, et je parle aux gens dans ce ministère, je sais que j'aurai à régler ça. Personne ne peut prendre la place de l'autre. Vous avez compris ce que j'ai dit? Dans la marche avec Dieu, personne ne peut prendre la place de l'autre. Dans ce ministère, je parle à la nôtre. Il y a les gens qui sont en compétition. Okay. Quand le Seigneur me fait dans les rapports là, je soulève seulement les épaules que je tiens. Les enfants qui ne comprennent rien. Personne ne peut prendre la place de l'autre. Dans la marche avec Dieu, personne. Donc si vous croyez que c'est en fonction des relations que vous avez développées, avec une personne ou avec une autre personne, que votre croissance avec Dieu va se faire. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. C'est en fonction de la performance que vous avez développée personnellement dans ce que Dieu attend de vous, que vous allez grandir. D'abord, vous avez une chose derrière moi. Moi, je n'ai pas d'amis. Donc, vous avez ça, personne ne sera mon meilleur ami. Oubliez l'option là. Donc, je ferme la route là avant que quelqu'un ait envie de la prendre. Est-ce que quelqu'un pense que c'est quand il aura une bonne relation avec l'envoyé, qu'il aura une meilleure relation avec Dieu? Ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. C'est vraiment le erreur, erreur. Ton ordinateur est erreur. Donc, vous devez savoir que personne ne peut prendre la place de l'autre. Tout le monde est en compétition par rapport au devenir que Dieu lui a prévu à lui-même personnellement. Pas par rapport au voisin, à la copine, au copain ou à l'autre personne qu'on lorgne. Et ne vous en faites pas, ce n'est pas par le fortune que Dieu va vous donner les amis ou les maris qui ne vous appartiennent pas. Ni même les femmes qui ne vous appartiennent pas. Il ne faut pas les déranger. Donc, vous avez comme élément de référence biblique concernant les disputes. 2 Corinthiens 12, le verset 20. Philippiens 1, le verset 16 à 17. Ce sont des passages extrêmement importants. Je les ai lus, de toute façon, je vous donne toujours ce que j'ai lu. Il y a l'autre élément produit par la chair, c'est les divisions. C'est-à-dire l'introduction d'enseignement. Oui, j'ai dit 2 Corinthiens 12, 1, Philippiens 1, le verset 16 à 17. Dans les divisions, il y a par exemple certains enseignements séducteurs, contraires à la parole de Dieu, et capables de produire des divisions. On n'a pas de problème dans ce ministère, il est quand même bien pour vous d'avoir les références du livre qui vous permet de parler de cela aux autres, à d'autres personnes. C'est-à-dire, Romains 16, verset 17. Deuxième élément, sont fruits de la chair, les sectes. C'est-à-dire une division, une assemblée, des groupes de bandits qui détruisent l'unité de l'Église. 1 Corinthiens 11, verset 19 parle des sectes. Faites très attention. Les sectes ont plusieurs modes de recrutement ici dehors. J'ai dit 1 Corinthiens 11, le verset 19 parle des sectes. Les sectes ont plusieurs modes de recrutement ici dehors. Vous pouvez entrer dans une secte, vous en rendez compte trop tard. Vous avez des organisations ici dehors qui sont en fait des antennes de recrutement de la franc-maçonnerie, de la rose-croix. Vous les connaissez maintenant à force de comprendre, d'apprendre.
les Illuminati ont aussi leur stratégie, etc., etc. Vous avez beaucoup de livres qui sont pensés être des livres de lumière alors qu'ils sont des livres de ténèbres. Préoccupez-vous des enseignements de la Bible. À parole d'abord, n'allez pas lire n'importe quel document sans vérification. Et ça pénule sur Internet. Quand on sait que même sur Internet, vous avez les sites qui vous proposent des livres sataniques, qui sont en fait des livres de sectes. Dès que tu lis les livres, tu es connecté à un maître. Qu'ils soient morts ou vivants, vous êtes ensemble désormais. Non, il faut avoir la bonne curiosité. Si quelqu'un veut être curieux, qui soit curieux dans la Bible. Mais vous avez des choses, moi j'ai été énervé une fois, je peux quand même vous faire ce témoin. Que je sois assis comme ça un dimanche, je regarde d'abord un gars là qui enseigne la magie aux gens à la télé, il a une chaîne de télévision qu'on appelle Carrefour. Mon morphine, oui, il enseigne la magie aux gens à la télé. C'est du satanisme. Plus. Une fois je regarde, il croit, il dit qu'il utilise l'alcool à 90 degrés, tout ce qu'on a, pour faire une délivrance, je ne sais plus de quel ordre. Je vais vous passer un dans mon cerveau. Ce qui m'a énervé, c'est de voir qu'il avait invité des pseudo-pasteurs. Je vous dis pseudo, parce que là, je ne peux pas appeler ça pasteur. Qui disent que, oui, et c'était à la conclusion de l'émission. Oui, vous savez, bon, la nature a horreur du vice, effectivement, quand on veut résoudre un problème chez quelqu'un, on enlève une entité, on la remplace par une autre. Vendeur ou vendeur. Pour opérer une délivrance. On enlève une entité, on la remplace par une autre. Mais avant que le praticien arrive, il y avait quoi? Donc, le prix de l'être humain normal ne doit pas rester par une entité satanique qui se balade dans le secteur. Il a oublié d'ajouter, parce que quand il a commencé à dire comme ça, moi, j'ai tout commencé à dire que j'aime ça. Pour enlever une entité et la remplacer par une autre dans leur monde-là, la nouvelle entité doit être plus forte que l'ancienne. Donc, tu as l'impression que c'est un délivre, hein? La nouvelle entité vient s'asseoir dans ta vie, observe le temps de voir ce qu'elle va faire. Ce jour-là, j'étais énervé dans un tel défi. Pendant que je me balade, je tombe sur le canal 2, qui est l'invité de marque de la journée, Patrick Demandon. Comme vous avez des émissions comme ça, mais ce gars a réuni les gens depuis plus de 20 ans. Imaginez le nombre de personnes qui sont passées par là et écouter ce genre d'émission de référent. Mais ça a changé, il a changé, il a eu plein d'émissions sur le graphique numéro 1, des émissions de référent. Il y a des gens qui ne manquaient jamais ça. Vous avez des scènes comme ça. On vous enseigne les choses des textes. On vous apprend à dessiner les pentagrammes et tout le reste. Vous avez déjà vu l'envoyer dessiner quelque chose pour faire une délivrance ou pas. C'est quoi même cette histoire? Quand vous avez un livre, on commence à dire que oui, dessine, mais tu dessines quoi? Tu dessines quoi? Là, on a vu à faire plusieurs délivrances. Les délivrances, les gens sont possédés par les livres sataniques, sont les plus compliqués. Parce que l'entité n'est pas dedans. L'entité est un grand professionnel qui est un grand manipulateur. Ce n'est pas qu'il est dedans, c'est comme un sorti. Il est connecté. Et la personne qui possède, il joue avec elle comme on joue avec les marionnettes. Donc tu dois trouver le lien et l'attraper là où il est. Et il ne s'installe pas comme les autres qui s'installent dans le corps. Il s'installe dans tout ton environnement. Et ils ont une technologie tellement avancée que ils savent miner. Et qu'ils peuvent se faire croire qu'il y a un esprit de lumière. Et c'est de la haute technologie. C'est les sectes. Quand on avait affaire à des sorties, c'est une petite affaire. Les sectes sont de grandes organisations. Si ce n'est pas question de pleinement où on fait les deux interstices, tu ne peux pas les combattre. N'entrez même pas, ne tentez même pas les prier. Apprenez à éviter les choses que vous ne comprenez pas. Une réalité qui est libre, c'est quand tu lis seulement. Le titre a l'air bien. Mais si tu avais l'accès à la lecture spirituelle, la chose, tu comprendrais le vrai titre satanique. Donc quand tu viens de lire tout ce que tu appliques au père le contraire de ce que le livre annonce. Et tu es possédé par un maître qui a écrit un livre au père de karaté. Moi je me rappelle une affaire. Il y a un maître de karaté, mais pour traiter son cas, il a fallu aller brûler les choses en Chine, brûler les choses sur la muraille du Chine, brûler les cimetières des grands maîtres chinois, aller au Japon, etc. Le cas était approfondi dans tous ces livres-là. Il y a certains gars qui font les arts martiaux qui sont possédés par leur propre maître d'arts martiaux. On leur a montré les choses, les techniques de Nambudo, qui n'ont rien à voir avec les techniques conventionnelles. Ils ont les grands maîtres, comme les Lushinao Nambu, qui ne se cachent même pas du nombre d'esprits avec lesquels ils jouent. Les gens ne se sont pas posés. Moi, il a fallu que Dieu me montre pourquoi Nambu, par exemple, fait ce séminaire au bord de la mer. Mais parce qu'il a des pactes avec les esprits des eaux. Explication simple. Et la majeure partie des gens qui sont sous sa domination, Rick Paul vient de mourir d'arrêt cardiaque parce que la manière dont il les attaque crée un dysfonctionnement du système cardiaque. Je passais par là. Les textes dans un pays comme le Cameroun, il y en a au moins 300 versets. Seulement le Cameroun. Croyez-moi, la salle est ouverte, le gibier c'est vous. Donc, il vaut mieux avoir conscience de ce que il faut s'aligner sur Dieu, chercher seulement Christ, et ne rien chercher d'autre. Quand vous voulez lire un livre, vérifiez que le livre là vient de Dieu. Parce qu'il y a encore d'autres textes qui sont dus aux hommes de Dieu qui se sont convertis. Ils ont mélangé. Bon. Nous fermons cette parenthèse. Maintenant, parmi les œuvres de la chair, il y a l'envie. C'est-à-dire éprouver une antipathie rancunière à l'égard de l'autre personne qui possède l'objet de ses désirs. Je vais vous dire quelque chose concernant l'envie. Méfiez-vous de vos convoitises. Est-ce que vous pouvez convoiter quelque chose que vous n'avez pas? On convoite juste ce qu'on n'apprenait pas. C'est par là que le diable passe. Quand tes yeux commencent à briller sur les formes de la femme de quelqu'un, tu apprécies seulement les formes, fais attention, quitte le couloir, va vite. Et tu commences à trouver du plaisir à apprécier les formes de la femme de quelqu'un. Fais attention. Quand tu commences à regarder la voiture de quelqu'un, ce n'est pas ta voiture, c'est sa voiture. Quand tu commences à désirer ce que l'autre a, de façon ardente, c'est bien d'apprécier. Mais quand tu commences déjà à développer ce désir-là, cette envie-là que vraiment, et que ça commence à faire dans ton cœur, fais attention à ton là. Il faut faire très attention à ces envies-là. C'est de la convoitise. Revenons à des choses qui sont très intéressantes. 14e point. L'ivrognerie. Les gens qui sont attachés au vili d'Ilière, c'est vrai. Mais c'est-à-dire l'affaiblissement du cerveau et l'affaiblissement du contrôle physique à l'usage d'alcool. Quand quelqu'un boit, et il prend du plaisir à boire, j'ai eu la grâce de boire deux fois dans ma vie. C'est un record, mais je ne peux pas oublier ça. J'ai compris ce qui arrive aux autres. J'étais couché sur le lit, je sentais comment le lit tournait comme ça. Je me suis dit que, mais, est-ce que c'est cohérent? Le lit est stable. Le sol est stable. Comment je suis couché sur le lit et je sens le lit? J'ai dit que, heureusement que j'ai déjà ressenti ça. Maintenant, je sais qu'il ne faut plus jamais ressentir ça. J'étais avec des grands, entre guillemets. On finit un colloque quelque part, une conférence. On commence par des choses très simples. Le vin blanc. C'est pas grand-chose, vraiment. Entre gens très doux. Chacun a du sang, un demi-verre. Et puis on cause, on prend la voiture, on cause vraiment, on se retrouve en boîte là, à Boulanjo. Et puis bon, on va passer du champagne, hein, c'est juste un petit verre. Pas grand-chose. Le champagne est fini. Oui, il y a du whisky aussi, hein. Et tu parles très beau aussi, c'est un plaisir. Je vous rappelle, c'est une histoire il y a peut-être 6 ans. J'ai bu. Vous savez, quand j'ai compris que ça ne va pas, elle voulait me lever pour aller aux toilettes.
Quand j'ai voulu me lever, j'ai senti que la terre faisait des ondulations. J'étais à l'une des grandes qui était à côté de moi. Je ne donne pas les noms. Ils sont trop connus. Que quand elle ne tient plus debout. Elle dit que quoi? Je dis que je ne tiens plus debout. Tout ce qui m'est arrivé m'a aidé à comprendre que cette affaire-là doit être tenue à distance de sécurité. Sauf qu'il faut se poser la question de savoir comment est-ce que ça peut arriver à un être humain normal une fois. Et la foi là ne suffit pas pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas le faire. J'ai un ami qui est psychopathologue. Il se moquait d'un autre collègue d'université. Vous avez une bière qu'on appelle whisky black, n'est-ce pas? Et la publicité disait que aussi fort que... aussi puissant, voilà. Alors, ils sont allés un soir, comme ça arrive souvent, manger, boire, et finalement, ils ont, après avoir fait ça, déposé leur ami qui est un collègue. Je ne donnerai pas le nom ici. On l'a déposé devant la porte de chez lui. Et quand on repassait plusieurs heures après, on s'est rendu compte qu'il était endormi devant la porte. Parce que quand tellement souffle à rater le chat de la série, il ne peut pas mettre la clé. Je connais un autre monsieur qui avait tellement souffle qu'il pensait que le dedans de la maison était dehors et que le dehors était dedans. Donc, il s'est levé, il allait faire pipi sur son lit et il est ressorti dormir dehors. Donc lui, il savait que le dedans de la maison c'est dehors et le dehors de la maison c'est dedans. Alors pour l'autre qui a raté le chat de la souris, le chat de la série, les gars avaient changé la publicité pour lui, on avait dit parce que c'est Lucie Black qu'il avait dit, Lucie Black, plus puissant que l'homme qui le voit. C'est peut-être aussi puissant que l'homme qui le voit. Quand on le voyait, ils ont allé dire, oh oui, on le savait, oui, c'est là. Plus puissant que l'homme qui le voit. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les actes que l'homme peut faire, l'être humain peut faire à cause de l'alcool. Mais je vais vous donner un élément plus pointu qui est spirituel. L'alcool est un tueur d'esprit. C'est un tueur d'onction. Si vous avez la grâce d'avoir l'onction, vous entrez dans le vide, il dit, ah, parti. Elle a dit, bye. Comment? Oui.
Cette semaine, j'ai eu la grâce de discuter avec quelqu'un qui a posé une question qui m'a paru un peu difficile avec la parole de Dieu. Que le chapitre 7 à partir du verset 17. Puisque vous avez
ce n'est pas ce qui rentre dans le problème, mais c'est ce qui sort.
Oui, de la bouche de l'aine. C'est pas ce qui entre dans le corps qui rentre dans le corps qui sort. Bon, plus justifier le fait que ce n'est pas parce qu'on voit de la corps qu'on est deux. Parce que qui sort du cœur de l'homme qui le rend deux. Donc je ne sais pas.
Nous allons répondre par les excès bibliques qu'on va lire tout à l'heure. Cinquième point, les excès de table. Alors, les excès de table, en grec, on dit komos. C'est-à-dire, un divertissement excessif. Festivité. Une fête axée sur l'alcool, la drogue, le sexe et autres choses du même genre. Le dernier commentaire de Paul sur les œuvres de la chair est sévère et dur. Tout pseudo-chrétien qui se livre à de telles activités n'est plus lui-même du royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne possède pas le salut éternel. Lisons ensemble Galates 5, le verset 21 et 1 Corinthiens 6, le verset 6. Le verset 9. Galates 5, 21, 1 Corinthiens 6, le verset 9.
Galates 5, verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance.
Attends. L'envie, l'ivrognerie.
Celui qui t'a parlé n'avait pas Galates 5, verset 21. Dieu parle le problème dit vrognerie. Ce n'est pas parce qu'on a dit que ce qui entre ne pose pas problème de ce qui sort. Puisque je me rappelle de cet échange. Parce que c'est en fait, ces gens reprochaient à Jésus que c'est Dieu ne veut pas laver les mains avant de manger. Parce que quand ils sortent devant la parole, ils croient qu'ils ont raison. Et puis ils disent que la parole se contredit. Ils n'ont pas la connaissance qu'ils étaient les textes. Donc, le problème là-bas, c'est que Jésus explique qu'il n'a pas besoin de laver les mains. Le poison ne peut pas le diffuser. C'est un Paul avait une différence mordue Paul, non. Les gens qui étaient à côté observaient, attendaient que qui s'engouffre et qui meurt. Rien. Paul était pleinement quoi. Une différence allait faire quoi à Paul. La parole précise que ceux qui boivent du poison, étant ayant l'esprit saint, ne peuvent, ça peut rien leur faire. J'ai eu un collaborateur ici qui était un juste, il était un jeune dans la foi. Il allait un jour sur une affaire de terrain. Ce qui s'est passé, ce n'est pas une histoire qu'on a racontée. On a mis du poison dans ses verres. Dès qu'il a pris le verre, il a commencé à mettre son tremble, le verre a explosé. Quand vous êtes avec Christ, il y a des choses qui peuvent arriver. Je n'ai pas dit d'être imprudent, mais vous devez quand même avoir cette garantie-là. Maintenant, l'ivrognerie est bien précisée comme excès. Galates 5, le verset 21. Comme il suit ça ses coordonnées, il faudra lui faire lire Galates 5, verset 21. Lui, je lis quand même. Continuez à lire.
L'envie, l'ivrognerie, les excès de carte et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui.
Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Je parle de tout ça parce que c'est quand même des bêtises. Je n'ai pas signalé ici. Mais c'est des bêtises inacceptables. J'ai vu sur Internet une image et un article qui a été publié dans un journal online qui présentait le champion du monde de la masturbation, qui est un japonais. Je vous préviens, la masturbation fait partie des fruits de la chair. Elle est interdite par Dieu. Dieu interdit que l'on fasse l'amour avec son propre esprit. Ce n'est pas ce qui est prévu. Quels que soient les ouvrages scientifiques que vous avez lus, qui vous encourage à vous masturber, c'est formellement interdit par Dieu. Il raconte des bêtises du genre, oh, c'est bien pour la femme, ça lui permet d'explorer son corps, etc. Ah bon, ça te permet d'explorer ton corps. Lave-toi, ou bien, c'est pas, fais tout ce que tu veux, 1000 fois par jour. Il y a certains plaisirs que tu ne peux avoir que grâce à un contact extérieur d'un homme. Pas d'une femme. Il raconte des soucis. Vous avez des scientifiques de renommée, sexologues, qui conseillent fortement le plaisir auto-érotique. Regardez le niveau de légitimation du mal, parce que ce n'est pas seulement de la confusion, c'est une dilution explosive qui permet qu'il y ait une compétition mondiale sur la masturbation. Le garçon a battu un record de 9 heures. Il est encouragé par sa copine. Il s'entraîne devant elle, elle a le chrono. L'enfer, c'est ici. Parce qu'elle a failli bailler, elle dit que non, non, non. Non, c'est pas par hasard que c'est tombé sur moi. Elle dit que vous, vous avez de tout. Quand tu es sur Facebook, tu n'as pas besoin de chercher l'information. Qui décide devant toi? Le bon, le mauvais, l'excellent, le moins mauvais, le moins bon, c'est toi. Quand je suis tombé dessus, j'ai voulu cliquer, je dis que non. Quand je vais balayer, il faut que je lise des conneries comme ça, je veux un peu voir, parce que moi je suis équipé. J'ai écrit, parce que j'ai publié dans un site canadien, avant d'obtenir mon doctorat en 2014, le jour où j'ai écrit un article sur les dangers de la masturbation, ils ont refusé de publier. J'ai écrit un article qui faisait au moins 7 pages, parce que j'avais fait une étude à l'époque là-dessus, démontrant que c'est nuisible pour la santé, ça fatigue, ça crée des troubles, ça perturbe même la sensibilité de celui qui a l'habitude. Je veux dire que de toute façon, c'est une habituation à un corps artificiel. Ce qui veut dire que quand tu vas entrer en contact avec le corps naturel, tu pourras plus apprécier le plaisir. Même d'un point de vue physique, ça pose problème.
et ça crée une dépendance. Quand ils veulent faire semblant d'être honnête, ils disent que bon là, le danger c'est la dépendance, parce que quelqu'un s'habitue trop à la masturbation, il risque de perdre l'habitude ou les larmes naturelles d'aller vers l'autre. C'est la ligne rouge. Pourquoi? À partir de combien de fois par semaine on fait l'habitude? À partir de combien de fois par jour? Parce qu'il y en a qui ils se lèvent avec, se couchent avec, on les pose café avec, on les pose déjeuner avec, etc. J'ai vu une image, je ne sais pas comment raconter, une journaliste qui avait été surprise pendant une émission. Elle avait un gros de Michel entre les filles. Elle est présentatrice d'une émission, mais donc elle arrive pas à se priver de ça. Donc pendant qu'elle fait l'émission, elle est quand même en train de se balader avec un instrument artificiel entre les filles. Psychopathologie, elle est déjà malade. Mais en dehors d'être psycho, d'être malade déjà au niveau psychologique, le problème c'est que l'esprit, c'est un esprit. Un esprit satanique, la masturbation est collée à elle. Et il a fait une combinaison. Masturbation, impudicité, prostitution. Elle a ça. Addiction. Non, l'addiction, mais l'addiction n'est qu'une dimension fonctionnelle. Donc les quatre trucs sont sur elle. Faites attention. Parce que je vois des choses que les gens font. Je connais une fille l'autre jour qui a dû avoir des rapports sexuels avec des filles. Je lui demande, tu as commencé comment? Elle dit, c'est ma tante qui a commencé. Elle dit que ma tante a commencé derrière moi, je n'ai pas pu sortir de là. Faites très attention aux fréquentations que vous avez. Vous pouvez avoir un seul mauvais ami pour dire votre vie. Il développe envers vous de mauvaises habitudes. Entre les gens qui pensent qu'il faut utiliser le savon, les bananes, les bâtons, mais je ne sais pas encore de quoi. Vous ne pouvez pas être formé dans un endroit où Dieu veut la sainteté et vous vous amusez à faire n'importe quoi. Si vous sentez que vos doigts sont baladeurs, rentrez prier vite. Le plaisir auto-érotique est satanique. Et il faut bien que quelqu'un s'occupe de vous le dire. Donc, parce qu'on est en train de finir les œuvres de la chair, et je pouvais nous faire une affaire comme ça, vous tombez sur quelqu'un pour parler, vous dites que c'est le diable. C'est le diable. Il demande pourquoi vous dites que Dieu ne permet pas qu'on fasse l'amour avec son propre esprit. Ce n'est pas comme ça que c'est prévu. Est-ce qu'on a lu 1 Corinthiens 6, verset 9? Que le micro aille là-bas.
1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes mériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, mériteront le royaume de Dieu. Amen.
Amen. Je viens de prendre une décision. Cet enseignement va continuer dimanche. C'est un problème de digestion. Je ne veux pas faire d'un coup les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Ça pourrait poser un problème de digestion. On est en pleine pédagogie. Donc, dimanche prochain, on va faire les fruits de l'esprit. Pour aujourd'hui, pour que les uns et les autres aient eu le nécessaire pour méditer sur les fruits de la chair, on va faire le travail tranquille sur les fruits de l'esprit. Et comme ça, ça permettra de faire un petit rappel avant de lancer cette partie. Les absents auront la grâce d'avoir au moins les passages bibliques. Parce qu'on ne va pas leur faire les commentaires que nous avons fait aujourd'hui et les analyses qui vont avec. Oui. Oui, vas-y.
Je vais voir que je suis peut-être comme un participant. Oui. Lorsque nous disons la physique, nous disons que deux corps de même nature se repoussent.
Oui.
Côté à terre, deux hommes doivent se repousser.
Deux hommes doivent se repousser.
Voilà, très bien. Maintenant, deux corps de nature différente doivent s'attirer.
Oui.
C'est pour cela que c'est encouragé l'homme et la femme.
Oui.
Très bien. Maintenant, tout à l'heure, on a dit au début du texte, dans Galates 5, que les fruits, les œuvres de la chair sont opposées aux fruits de l'esprit.
Oui.
Ils doivent tous composer. Alors, ce sont des corps de nature différente. Donc, en principe, mathématiquement parlant, ils doivent plutôt s'attirer. Ça dépend de la carte de la
oui, j'écoute attentivement.
Voilà. Maintenant, comment démontrer alors, quand tu le penses, tu peux avoir bien comprendre que les corps de nature différentes sont obligés de se reposer. C'est là ici que le plan est à terre, le plan physique. Puisqu'on a d'un côté le fruit de l'esprit, de l'autre côté les œuvres de la chair qui sont totalement opposées. Mais on sait que deux corps de nature différente
ok. Merci d'avoir posé cette question. Ça a permis de relever un sujet. Parce que, qui parmi vous a été ici lorsque nous donnions l'enseignement sur la structure de l'esprit, la structure de l'âme et la structure du corps? Ceux qui ont été là, qui lèvent la main? Ok. Moins de la moitié. Donc, on va donner cet enseignement rapidement pour que la réponse à la question soit donnée de façon satisfaisante. L'homme, l'être humain, et ça c'est ce qu'on devrait enseigner dans les universités scientifiques, l'être humain est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Voici les structures de ces trois éléments. Le corps, d'un point de vue fonctionnel, on peut le segmenter en cinq parties, que sont les sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et quoi? Le goûter. Ça, c'est le corps. Avec le corps, nous avons l'âme. Dans l'âme, nous avons l'intelligence, la volonté et les émotions. Je m'arrête d'abord à ce niveau pour que les uns et les autres soient à l'aise. Et dans le corps, vous avez les cinq sens. Vous pouvez les retrouver. Dans l'âme, vous avez l'intelligence. Vous avez la volonté. Et vous avez les émotions. Les émotions ou les sentiments. Quand vous regardez la structuration des cinq sens, prioritairement, les cinq sens se préoccupent des choses matérielles. Toucher, goût, vue, c'est des choses matérielles, essentiellement. Quand vous regardez la structure de l'âme, vous avez l'intelligence, vous avez les émotions ou les sentiments, vous avez la volonté, c'est encore lié à la chair, c'est encore lié au corps, c'est-à-dire des choses matérielles. Vos désirs relèvent de quoi? De vos émotions. Vos joies relèvent de quoi? De vos émotions. Vos envies relèvent de quoi? De vos émotions. Votre intelligence relève de quoi? De la compréhension matérielle et rationnelle que vous avez de la vie. Votre volonté est liée à quoi? À vos désirs, à votre perception, à votre vie, à la vue que vous avez, à la perception que vous avez de la réalité. La partie supérieure de l'homme, c'est celle qu'on appelle l'esprit. Maintenant, de quoi est composé l'esprit? Dans l'esprit, vous avez la communication, qui est un élément d'interaction entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Vous avez l'intuition, qui est la capacité à obtenir une information sans investigation. Et vous avez la conscience, qui est la conscience de Dieu en vous. Mais quel est le problème de l'âme par rapport à l'esprit? L'âme est le siège de la personnalité. Si l'âme prend du pouvoir, vous avez une volonté qui vient s'opposer à l'esprit. Quand l'âme prend du pouvoir, vous avez une intelligence qui vient s'opposer à l'esprit. Quand l'âme prend le pouvoir, vous avez des sentiments qui viennent s'opposer à l'esprit. Lorsque vous recevez l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, il se connecte à votre esprit. Il fonctionne à votre esprit. Il vous développe l'intuition.
il développe la communication avec lui, il développe la conscience de Dieu en vous, ce qui fait que les choses de la chair qui sont de l'âme et du corps perdent le pouvoir en vous. Tant que vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint, la chair, c'est-à-dire l'âme et le corps, font la guerre à l'esprit. La majeure partie des êtres humains sur terre sont dans cette situation. La chair, c'est-à-dire l'âme et le corps, ont le dessus sur leur esprit. Or, dans la marche avec Dieu, c'est l'esprit qui doit avoir le dessus sur l'âme et le corps. S'il faut garder l'expression en mathématiques, voici les mathématiques spirituelles liées à cette problématique. Et la particularité lorsqu'on a reçu l'Esprit Saint, c'est que quand on a reçu l'Esprit Saint et qu'on grandit dans cet esprit, c'est-à-dire que cet esprit grandit en toi, parce que plus tu livres de toi, plus tu abandonnes de ta volonté, plus tu abandonnes de tes émotions, plus tu abandonnes de ton intelligence, plus Dieu lui se remplit en toi. Tu as donc ce qu'on appelle un renouvellement de l'intelligence en l'Esprit Saint. Ton intelligence commence à être une intelligence qui te permet d'avoir le discernement et de dépasser les limites matérielles de la chair dans la compréhension matérielle de la vie. Parce que maintenant, tu comprends les choses dans l'esprit, tu ressens les choses dans l'esprit et tu les vis dans l'esprit. C'est pourquoi à partir d'un certain moment, tu n'es plus malléable. C'est pourquoi certains péchés reculent. C'est pourquoi certaines envies reculent. C'est pourquoi certains sentiments reculent. C'est pourquoi certains désirs reculent. Parce que l'esprit prend autorité sur la chair. L'esprit prend l'autorité sur l'âme, qui prend autorité sur le corps. C'est pourquoi, par exemple, jeûner est important. Au fur et à mesure que vous jeûnez, vous tuez la chair. Vous n'êtes plus sujet à des envies, à des simples sentiments. Quand on veut faire la délivrance de certaines personnes, on a du mal à les délivrer. Pourquoi? Parce que ils ont développé certaines émotions, ont développé certains sentiments, ont développé certaines envies, ont développé certains plaisirs. Le plaisir prioritairement est de la chair. Il est logé à la fois dans le corps et est logé dans l'âme. On prend plaisir à pécher. Alors que, tandis qu'on est en train de prendre plaisir à pécher, on est dans un processus d'autodestruction. Tant que le sujet n'a pas une rencontre avec l'Esprit Saint, il n'a même pas conscience de son enfer. C'est pourquoi vous pouvez trouver des personnes qui sont à l'aise dans la sorcellerie. Vous avez d'autres gens qui sont fiers du vol. Ils volent la main fière. Ils prennent plaisir à voler. Il y a des gens qui sont fiers du viol. Qui est fier de violer? Dans tout ce que cela signifie violer. Il y a des gens qui sont fiers de l'adultère. Vous allez voir beaucoup de gens fiers de la fornication. D'ailleurs, il y a de quoi se claquer les doigts. Parce qu'on n'a pas la connexion qui permet de renouveler l'intelligence et de faire que l'esprit domine les sentiments qui sont dans l'âme, domine l'intelligence telle qu'elle est conçue dans le monde matériel, domine la volonté. Quand on vous dit que le siège de la personnalité, c'est l'âme, vous allez donc comprendre pourquoi la marche avec Dieu se force à la grande humilité. Parce que dans l'âme, il y a « je veux », c'est ça ta volonté. Je veux. Dans l'âme, il y a l'intelligence qui te montre les choses sous l'angle de ce qui t'intéresse. Dans l'âme, tu as tes sentiments, les émotions que tu as. Or, quand on n'a pas rencontré la parole de Dieu, on n'a pas de système qui te mette en alerte rouge. Quand tu commences à dire que moi je veux manger, moi si je vais pas manger un petit, comme tu fais matière, tu fais matière avec trois fois. Le petit déjeuner, tu fais un poulet, non? Un poulet, ça c'est le petit déjeuner. Tu es caché, non. Pourquoi toi ton petit déjeuner c'est deux poulets? Donc, si je n'ai pas mangé au moins pour trois personnes, c'est que ce n'est pas moi. Si je n'ai pas bu au moins un casier, c'est que ce n'est pas moi. Si une semaine, je n'ai pas au minimum 10 petites, c'est que c'est le plaisir, c'est l'âme. C'est je. C'est la volonté, le moi, c'est le de la personnalité. Quand tu marches avec Dieu, la première école, c'est l'obéissance. Tu montes, tu descends, si tu n'es pas passé par là, tu n'as pas encore rencontré Dieu. l'obéissance. Obéir, c'est-à-dire quoi? Ta volonté ne vaut plus rien. Obéir, c'est-à-dire quoi? Ton intelligence se soumet. Obéir, c'est-à-dire quoi? Tes sentiments, tu les mets en bas au pied. Tu les piétines toi-même. Tu ne cherches pas ce qui va te plaire. Tu n'es pas en harmonie avec ce qui relève de ta volonté. Tu ne te préoccupes pas du jeu. Tu obéis. Cette question qui a été posée a l'avantage de nous permettre de t'expliquer. Parce que cette question cadre avec la thématique. D'expliquer où se trouve le combat. Le combat se situe entre l'esprit et la chair. Mais dans la chair, nous avons l'âme et nous avons le corps. Applaudissons donc pour le Seigneur. Alléluia. Que tout le monde se lève. Père éternel. Toi qui es le créateur de l'univers visible et invisible, toi qui es le maître du temps et des pieds constants, toi qui es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, toi qui es le premier et le dernier, toi qui as créé la terre, tout ce qu'elle renferme, et tout ce qui y habite. Nous te glorifions, Père éternel, nous te remercions pour l'ensemble de la création, nous te bénissons, toi qui es notre montagne de feu, Père éternel, nous te remercions pour tous tes ministères, nous te remercions pour tous tes ministres, tes voix, nous te remercions, Père éternel, pour toutes les délivrances, tout au peuple que tu sors de la captivité, que tu sors de l'oppression, de l'enfer, tes résistants, des rentes pharaoniques. Te bénissons, Père éternel, pour toutes les bienfaits, pour toutes les grâces que tu accordes, les guérisons que tu permets d'avoir, les percées que tu accordes, les élévations et les restaurations que tu accordes à ton feu. Pour tous les péchés que nous avons commis devant ta face, Père éternel, nous te supplions de ne rien retenir contre nous. Peu importe les lieux et les moments où cette question a été commise, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par négligence, par nonchalance, par relâchement, de tout comme de nuit, du monde visible au monde invisible, du temps de rêve au temps de sommeil. Seigneur, voici une nouvelle série d'enseignements que tu engages pour affermir ton peuple, le rendre meilleur, afin qu'il soit un peuple de qualité, qu'il soit un peuple à la hauteur de tes attentes, et qu'il mérite l'alliance qui a été signée, qu'il montre qu'il a compris le temps et l'essence de l'alliance, la nouvelle alliance, le renouvellement de l'alliance en Jésus-Christ. En l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint de faire des temps une mention spéciale pour scellir cet enseignement dans les cœurs. Afin que cet enseignement fasse du chemin partout où il doit le faire, dans les vies des personnes ici présentes et toutes les autres qui les côtoient. Que chacun d'entre vous devienne la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun d'entre vous reçoive une bénédiction spéciale parce qu'il est venu ici. Que chacun d'entre vous soit nourri par la parole. Que chacun d'entre vous reçoive un cadeau spécial pour être venu ici. Et que le Seigneur Jésus vous a permis personnellement, sorte de vous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de lui, qui vous aligne, qui vous fruit de l'esprit, qui vous éloigne des œuvres de la chair, et qui fasse de vous la lumière partout où vous passerez. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Je demande à l'Esprit Saint de vous charger spécialement, de vous nourrir dans tous les compartiments de votre vie, de vous nourrir dans tous les aspects de votre existence, et que la marche avec Dieu devienne plus facile désormais pour chacun d'entre vous. Qu'elle devienne plus facile, qu'il s'agisse de la prière, qu'il s'agisse désormais du jeûne, qu'il s'agisse de la lecture et de l'exploitation de la parole, que ce soit la connaissance matérielle des textes, la connaissance spirituelle des textes ou la connaissance révélée. Qu'il s'agisse des éléments qui relèvent de la persévérance, qu'il s'agisse, Père éternel, de tout ce qui relève de la patience, qu'il s'agisse, Père éternel, de tout ce qui relève de l'obéissance à la parole, de la mise en pratique de cette parole avec un bon cœur, un cœur sincère et entier. Qu'il s'agisse de la foi en Jésus-Christ, dans tout ce que cela représente, de prendre conscience de ce qu'il a avec nous, de prendre, avoir confiance en lui et de marcher en sachant que nous pouvons avoir en lui la ferme assurance de ce que nous espérons. Qu'il s'agisse de l'amour en Jésus-Christ dans tous les compartiments de ce que c'est que cet amour. Que l'Esprit s'inverse sur vous, maintenant cette onction spéciale, qui vous transforme, enlève le cœur de pierre que certains avaient pour eux donner un cœur de chair. Enlève en eux l'esprit d'impudicité. Enlève en eux l'esprit d'ivrognerie. Enlève en eux l'esprit des excès. Enlève en eux les envies. Enlève en eux l'attirance vis-à-vis de tout domaine de sexe. Enlève en eux les animosités et l'esprit de division. Enlève en eux les esprits de jalousie. Enlève en eux, ici et maintenant, les complexes d'infériorité. Enlève en eux l'esprit d'inimitié. Enlève en eux l'esprit de querelle.
Enlève en eux l'esprit de magie et les éloigne de la magie de tout ce qu'elle est. Enlève en eux l'esprit de dispollution. Enlève en eux l'esprit de d'idolâtrie. Enlève en eux l'impudicité, l'esprit d'impudicité, l'esprit de prostitution, l'esprit de sédition. Que le Seigneur de Dieu se glorifie abondamment dans votre vie. Que le Seigneur de Dieu se glorifie abondamment dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.